Vous écoutez
RMC. RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Karine Galli.
23h36, vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit. L'afterfoot continue avec Fabrice Hawkins, avec Maxime Chano, avec Kevin Diaz. Et nous sommes avec Paulo Breitner. On parlait de l'Allemagne, on va parler de la Nati dans quelques instants. Mais on va continuer quand même juste un petit peu sur l'Allemagne. Mais c'est vrai que Paulo, par rapport à tout ce que tu nous as dit, par rapport aux déceptions passées et par rapport au choix aussi de Nagelsmann, moi j'ai l'impression que l'Allemagne arrive aux États-Unis, enfin est déjà arrivée, avec des problèmes qui auraient pu être largement évités. Et le gardien de but, alors on est d'accord qu'évidemment Bowman c'est pas un top gardien, mais de se mettre dans un bourbier pareil, c'est complètement lunaire, c'est pas pro en fait, tout simplement.
Bah alors par rapport à l'histoire de la Nationalmannschaft, ça c'est de la rigolade. Hein.
Oui, mais avant il y avait des très bons gardiens et ils se tiraient la bourre. Là c'est pas du tout le cas.
Ouais, ils se tiraient la bourre. Là c'est un peu le problème générationnel. Même s'il y a des jeunes qui débarquent là, qui on va découvrir l'année prochaine en Ligue des Champions le jeune Zeiman qui revient à Stuttgart. Mais le là-dessus, moi je me pose pas trop. On a vu Hobby cette saison au Bayern, donc tout ça, moi là, ne me pose pas trop de questions. Moi ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est l'engagement, les leaders, est vraiment celui qui parle dans le vestiaire, comment ça pousse, etc. Et je le sens pas vraiment une hiérarchie habituelle qu'on pouvait voir et très clairement voir, puisque les Allemands s'appelaient toujours les Leitwolf, hein, les chefs de meute, on sait ce que ça veut dire. Donc c'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude en équipe de France. Quand il y avait trop de leaders en équipe d'Allemagne, et ben ils se bouffaient entre eux, et puis c'est celui qui avait la plus grande gueule qui restait sur le terrain et les autres ils sortaient. C'était ça le football allemand. Aujourd'hui, moi, les leaders, je les vois pas, je les sens pas. Kai Havertz, c'est un joueur extraordinaire qu'on nous l'a vendu comme un balak. Est-ce qu'il est bien positionné au poste de numéro 1? J'en sais rien. Wirtz et Moussiala sont des joueurs qui auraient évolué avec une équipe d'Allemagne il y a 20 ou 30 ans. On n'aurait entendu qu'eux, là, on les entend pas du tout. Et les autres, en fait, les autres auraient été des soldats, des larbins pour des joueurs comme Wirtz et Moussiala. Mais le problème, moi, si tu veux, je comprends plus cette Allemagne du foot aujourd'hui. Je la vois, je regarde. Ok, ils gagnent 3-0, 4-0. Très bien, tout le monde s'en fiche. Ils perdent, tout le monde s'en fiche. Et c'est très différent de ce que j'avais vécu lorsque j'avais les cheveux sur la tête, quoi. Donc j'essaie de comprendre ça. J'ai beaucoup de mal avec mes grilles de lecture sur ce qui se passe. J'arrive pas à comprendre pourquoi l'Italie n'est plus à Coupe du Monde, pourquoi le Brésil, un pays de plus de 250 millions d'habitants, n'arrive pas à sortir 11 joueurs très compétitifs, etc.
Donc, il y a quand même quelques données, Paulo, que tu connais aussi avec ce qui se passe aujourd'hui dans le foot business et dans le foot moderne. Aujourd'hui, que ce soit peut-être à moindre mesure les Allemands, mais les Allemands aussi, les Brésiliens notamment, surtout, qui sont lancés à 16, 17 ans, des fois 15 ans, qui arrivent dans un football business où ils sont abreuvés d'argent, de fame, de réseaux sociaux et de tout ça. Et aujourd'hui, tu en parlais avec la génération des Allemands qui est mentalement beaucoup moins forte de ce que ça a été. Mais quand tu vois que Wirtz, je crois que Wirtz à 20 ans, il avait joué autant de matchs que Balak à 24, c'est une stat qui est ouais, à peu près celle-ci. Eh ben forcément, il s'était déjà fait les croisés, il avait déjà connu des choses incroyables, mais peut-être qu'à 26, il est cramé. Et donc aujourd'hui, le football business amène aussi ce genre de nation à souffrir aussi de football.
Oui, et puis faut remettre aussi dans
le discours. Mais j'entends, mais moi j'ai pas vu encore une fois un joueur de 23 ans prendre sa retraite parce que de toute façon il a son compte en banque et est rempli.
Non, mais il y a aussi un autre facteur à prendre en considération, messieurs, c'est que la concurrence s'est armée aussi, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qu'on voyait pas il y a quelques années. Je pense à la Norvège, je pense au Maroc, je pense aux États-Unis, et en fait le niveau des concurrents à ces grandes nations, à l'Allemagne, à la France, au Brésil, et bien ça se restreint.
Mais est-ce que c'est pas les grandes nations qui se sont justement appauvries?
Non, je pense pas. Il y a peut-être aussi, ça paraîtrait pas logique. Je veux dire, les grandes nations continuent à produire des talents.
Quand tu vois le Brésil, par exemple, moi je fais le calcul. Le Brésil de 2026, il fait pas rêver, alors qu'ils ont eu des Brésils exceptionnels par le passé, par exemple.
Oui, mais c'est aussi la manière dont tu formes tes joueurs aussi, parce que Kevin l'a très justement dit, le football moderne demande aussi des joueurs qui doivent très vite être transférés en Europe. Donc c'est vrai que les Brésiliens, ils ont tendance à former des joueurs différents, non pas pour pouvoir jouer en Brésil, mais directement pour être performants en Europe.
Voire même pour être vendus. Avant d'être des bons joueurs, il faut qu'ils soient vendus.
Donc tu crées des profils qui doivent être aussi être en mesure dur de pouvoir s'exporter. Donc ça ceci explique aussi cela, mais il y a une réalité, c'est que quand tu jouais le Luxembourg ou le Canada et quand tu étais le Brésil ou l'Allemagne, bah t'en mettais 5 6 7 8 et puis maintenant ça se restreint. Tu le vois bien avec l'Irak, tu le vois bien avec l'Espagne, Irak, où est-ce que ça fait 1-1, on le voit avec la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, toutes les nations profitent un petit peu justement de la formation européenne et même sud-américaine, ils récupèrent des joueurs et derrière tu vois des nations qui tiennent la route. Et je serais pas surpris de voir pendant cette Coupe du monde des équipes comme la Colombie performer, des équipes comme l'Équateur performer, même si j'ai aucun...
Oui, enfin, Colombie a une histoire quand même dans le foot.
Non, mais de là, alors, quand je dis performer, en tout cas, je serais pas étonné de voir une équipe sud-américaine aller un peu plus loin que d'habitude, sans parler évidemment de l'Argentine
ou du Brésil. Vers le bas,
et je pense qu'en règle générale, c'est plutôt les petites équipes qui ont évolué plutôt que les grandes équipes qui ont baissé de niveau.
Je suis d'accord.
Polo, juste...
Pour
terminer, juste un petit mot sur la Nati qui a fait match nul, un but partout face à l'Australie. On l'a dit, hein, les deux sont qualifiés. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match?
Ben pareil, un petit peu que l'Allemagne, quand la Suisse joue en première mi-temps notamment, ben, il balaye l'Australie, et puis l'Australie est bien revenue en seconde période. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Manzambi, maintenant, apparemment, fait partie du 11 titulaire. En tout cas, il l'a été lors des deux matchs de préparation, parce qu'il y a aussi eu le 4-1 contre la Jordanie. Donc, est-ce que c'est une équipe polyvalente, hein, capable de jouer défense à 3, défense à 4, Manzambi revient dans le jeu, etc. Donc, moi, c'est un vrai beau 11 de départ, avec quelques joueurs qui peuvent en sortie de banc faire des choses intéressante. Donc je pense pas que la Suisse encore une fois gagnera la Coupe du Monde, même si même si les au pays on aimerait bien aller chercher une demi-finale, mais en tout cas va falloir la sortir cette équipe.
Un but partout, on rappelle, entre la Suisse et l'Australie, et vous pouvez retrouver les podcasts sur ces deux nations, notamment sur YouTube et sur les 48 évidemment qui participent à ce mondial. Merci beaucoup Polo, belle soirée à toi. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va partir en Belgique. Et oui, la Belgique qui a évidemment raté sa dernière Coupe du Monde, sortie dès la phase de groupe, et qui a maintenant un Français à sa tête, Rudy Garcia. Alors, où peut aller la Belgique lors de ce mondial 2026? On en parle avec Loïc Wouts tout de suite.